Liturgie de la parole de ce samedi, 22 mars 2025, samedi de la deuxième semaine de carême. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, par le secours de ta grâce divine, tu nous associes déjà au bien du ciel. Alors que nous sommes encore sur la terre, nous t'en prions, dirige-nous toi-même en cette vie, afin de nous conduire jusqu'à cette lumière où tu demeures. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Première lecture. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Lecture du livre du prophète Michée au chapitre 7, versets 14 à 15, ajoutons le verset 18 à 20. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever les crimes? Pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis le jour d'autrefois. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 15e chapitre du 1er au 3e verset, puis du 11e au 32e verset. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec le gousse que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci lui répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné s'est mis en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service. » Mais sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui les veaux gras. Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, chers internautes, la compassion de Dieu. Dieu souffre quand nous souffrons. Il souffre avec nous, il souffre pour nous. À l'image de ce Père dont il est question dans la parabole que nous venons tous d'écouter. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète est convaincu de la compassion de Dieu et sollicite justement cette compassion à un moment difficile de l'histoire du peuple juif. Michée 7, de 14 à 15, puis de 18 à 20. Qu'est-ce qui se passe? Israël est en difficulté, le royaume du Nord. Il y a l'expansion assyrienne. Les Assyriens sont très forts. Leur armée est parmi les meilleures de l'époque. Qu'est-ce que le peuple va faire? Le prophète n'a pas de choix. Il a l'impression que le roi, celui qui règne au pays, n'est pas en mesure de bloquer l'avancée des Assyriens. Les Assyriens s'avancent à grands pas, lourdement armés. Le prophète se tourne vers Dieu. Il n'a pas de choix. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans les maquis, entouré des vergers. Sois le pasteur de ton troupeau. C'est la prière du prophète Michée dans la première lettre. Occupe-toi de ton peuple. Occupe-toi de nous, Seigneur. Occupe-toi de ceux qui souffrent. Occupe-toi, occupe-toi. C'est ce que les prophètes adressent à Dieu comme prière. Comme le roi ne peut rien, le roi ne peut pas bloquer l'avancée des Assyriens, lourdement armés. L'unique chose, c'est la prière. Seigneur, occupe-toi de ces troupeaux, ne l'abandonne pas. Et de même aussi, dans l'Évangile, on voit aussi la compassion de ses pères. Ses pères qui souffrent à cause de ses deux enfants. Il y a le premier qui est parti. Il est quand même revenu. Et quand il est revenu, c'est la fête. L'aîné ne veut plus entrer. C'est maintenant au tour de l'aîné d'être lui aussi enfant prodigue. Le cadet est enfant prodigue parce qu'il est parti, mais il va revenir. À un certain moment, quand l'aîné revient du champ, on lui dit, voilà, ton frère est revenu, on est en train de le fêter. Il dit, non, je n'entre pas. En ce moment-là, lui aussi, il devient enfant prodigue. C'est ce qui justifie la souffrance de ses pères de famille. Nous allons voir le comportement de ces trois personnages. Les personnages clés dans cette parabole. Il y a aussi les comportements des pharisiens et des scribes qui sont des gens qui ne voudraient pas que Jésus soit ouvert aux pécheurs, c'est-à-dire aux païens. D'abord le Père. Le Père, lui, c'est un Père qui incarne l'image de Dieu. Un Dieu très bon. Il fait ce que les enfants demandent. Le cadet demande, n'est-ce pas, sa part d'héritage. Alors le papa en profite pour donner aussi à l'aîné. Il partage des tirés, il partage déjà son héritage de son vivant. Le cadet part. On sait ce qui va se passer. C'est une vie difficile loin du Père. Il revient vers le Père. Et le père l'attendait. Personne n'est allé dire au père que voilà, ton fils est arrivé. Mais c'est lui-même qui a vu de loin. C'est parce qu'il attendait le retour de ses fils-là. Ça, c'est Dieu. Dieu attend votre retour. Dieu attend que vous reveniez à lui. Il attend. À chacun de se poser la question de savoir où est-ce que je suis maintenant. Est-ce que proche du Père ou bien je me suis éloigné du Père? Si je me suis éloigné, voilà. L'occasion est là de revenir au Seigneur. Parce que lui, il attend, comme ce Père-là qui attend. Et puis, quand on revient auprès du Seigneur, on recouvre sa dignité. On va l'habiller, on va lui donner les sandales, tout ça, parce qu'il est maintenant digne fils de Dieu. Loin du Seigneur, c'est l'esclavage. Loin du Seigneur, on se dénature. La vie perd son sens quand on s'éloigne de Dieu. Mais proche du Seigneur, eh bien, on est fils digne. On est homme libre. Libre parce que vous êtes en mesure de faire ce que Dieu veut. Ma liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux. Ma liberté est ordonnée à la volonté de Dieu. Le Père est très bon et il rappelle ce que chacun de nous devrait être. Chacun de nous devrait avoir cette compassion à l'égard des autres. Le deuxième personnage, c'est le fils cadet, qui est parti très loin du Père. Il fait une expérience douloureuse. Loin des yeux, loin du Père, c'est terrible. Il ne s'en sort plus. Et puis, voilà, ce qu'il avait comme fortune s'épuise et du coup, la famine commence dans cette partie de la terre. Il y a la famine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de rentrer chez le Père. Ce fils cadet a des qualités. Et la première qualité, c'est qu'il décide de rentrer chez le Père. Il a compris qu'il faut être proche du Père. Il a peut-être compris un peu plus tard, mais il a compris tout de même. Ça, c'est sa première qualité, le souci du Père. Quand ça ne va pas, il se tourne vers Dieu. Quand ça ne va pas, vers qui vous tournez-vous? Voilà. Pour les fils cadets, quand ça ne va pas, il faut aller chez le Père. On n'a pas de choix. Chers auditeurs, chers internautes, s'il décide d'aller chez le Père, c'est parce que il a fait l'examen de conscience, qui est très très important. Il a vu sa part de responsabilité. S'il était en train de chercher des boucs émissaires, il ne rentrerait jamais chez Dieu. Il rentre chez le Père parce que, après avoir fait l'examen de conscience, il découvre qu'il est fautif. Alors il s'élève pour aller vers le Père. Ça devrait être ainsi pour vous et moi, chacun de nous, durant ce temps de carême. C'est vraiment le temps où nous devons faire l'examen de conscience. C'est le temps où, après avoir fait l'examen de conscience, on va à la confession. Il faut y aller régulièrement. Ce fils cadet fait une sorte de confession. C'est cela, le fait qu'il découvre sa part de responsabilité, cela va le sauver. Est-ce que dans votre situation, vous êtes capable d'identifier vos propres erreurs? Votre part de responsabilité? Ou bien c'est toujours la faute aux autres? Si les fils cadets s'étaient comportés ainsi, en cherchant des boucs émissaires pour justifier sa situation, la Bible ne parlerait pas de lui. La Bible parle de lui parce qu'il est un modèle par rapport à cela. Quelqu'un qui est capable de dire « c'est ma faute ». Ce n'est pas la faute aux autres, mais c'est ma faute. Parfois, c'est rare dans la vie de trouver des gens qui peut vous dire, dans le contexte familial, professionnel, qui vous dit, écoutez, la faute c'est à moi, pardonnez-moi. Parfois c'est difficile, parce que tout le monde veut se justifier, tout le monde veut tirer le drap de son côté, tout le monde cherche le bouc émissaire. Mais le fils cadet n'est pas comme cela. Non seulement il comprend qu'il a une part de responsabilité dans sa situation, mais il rentre chez le Père. Revenir au Père dans la confession, en ce temps de carême. Et le fils aîné pour clôturer. L'aîné devient lui aussi prodigue, parce qu'il ne veut pas entrer dans la maison du Père, et jusqu'à la fin de cette parabole, elle va rester dehors. Tout simplement parce que il n'y a pas l'amour en lui, il y a l'hypocrisie. Il a toujours été proche du Père, lui-même l'a dit. Ça fait tant d'années que je suis toujours près de toi. Tu ne m'as jamais fêté. Il est près du Père, mais son cœur n'est pas comme le cœur de son Père. On peut être assidu à l'église, à la paroisse, mais votre cœur est loin de Dieu. C'est sa déficience. Il a toujours été là. Il a toujours été près de son Père physiquement, mais son cœur était loin de Dieu. C'est un hypocrite. Où se trouve ton cœur? Est-ce que ton cœur est semblable au cœur de Dieu? Accepteriez-vous de pardonner? Accepteriez-vous que on fasse pour l'autre, si vous êtes des enfants dans une famille, accepteriez-vous que papa accorde à l'autre ou maman accorde à l'autre une faveur dont vous n'avez jamais été bénéficiaire? Accepteriez-vous dans les cadres professionnels qu'on plébiscite l'autre, qu'on le félicite, qu'on puisse le promouvoir? Accepteriez-vous que l'autre soit bénéficiaire des grâces de la part de Dieu, des grâces dont vous n'êtes pas bénéficiaire? Autant de questions qu'on peut se poser. Et notre carême, c'est un peu cela, la méditation, la réflexion, pour que le Seigneur puisse vous donner, nous donner la grâce d'être comme lui, d'avoir son cœur. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. C'est ça les grands messages du carême. Et ce sont des paroles de Jésus dans l'évangile de Luc. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
L'avènement du Christ, le Sauveur.